aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un champion, d'un numéro 9, mais plus encore l'histoire d'un capitaine. À quoi pense-t-il juste avant d'entrer sur le terrain? Il pense au match, bien sûr. Il pense à la tactique, à la stratégie, bien sûr. Il pense à ce qu'il a à faire, mais surtout, il pense aux autres, à ses coéquipiers, à ses potes. Comment les mettre en confiance? Comment leur parler pour qu'ils donnent le meilleur? Comment leur transmettre les bonnes énergies? Lorsque le joueur en lui laisse parler le capitaine, il se passe quelque chose de bizarre et de beau. C'est amusant d'ailleurs, il est de nature plutôt timide, mais lorsque le joueur laisse en lui parler le capitaine, il trouve une autre voie. Le shoot d'ego, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Il avait souri en voyant le titre du livre de Zlatan, « Le foot, c'est moi ». Lui, s'il écrivait un livre, il choisirait plutôt « Le rugby, c'est nous ». Il aime les performances individuelles tant qu'elles sont au service de la performance collective, parfois même quand elles s'effacent au profit de la performance collective. Et quand il sourit après une belle action, c'est un grand sourire de partage, c'est une joie d'être ensemble, une joie de gratitude, d'avoir construit une action collective, d'être les artisans d'un schéma de jeu dans lequel on a besoin de tout le monde, des talents les plus différents, des petits comme des gros. Une belle équipe ne peut pas se réduire à une addition de talents. C'est cela, bien sûr, mais c'est plus que ça. Et c'est ce plus qui lui donne des étoiles dans les yeux, c'est ce plus qui lui donne de la force dans les jambes. Au rugby, le capitaine ne porte pas de brassard et cela lui plaît bien. L'essentiel n'est pas dans ce qu'on affiche, mais dans ce qu'on éprouve, dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on réussit à créer tous ensemble. On lui dit parfois que tout le monde joue mieux quand il est là, mais ça le gêne un peu, il ne sait pas où se mettre, alors il glisse un bon mot, un peu pince sans rire, avant de passer à autre chose. Et cela aussi, c'est une belle performance. Pour en parler ce matin de performance et de beauté, j'ai la joie de recevoir ce numéro 9, mais pas seulement, un des joueurs les plus polyvalents de l'histoire du sport, ce capitaine. Premier rugbyman à avoir été élu meilleur joueur du monde de rugby à 15 en 2021, puis meilleur joueur du monde de rugby à 7 en 2024, champion olympique en 2024, vainqueur avec l'équipe de France du tournoi des Six Nations en 2022 et en 2025, capitaine également de la meilleure équipe de rugby du monde, le Stade Toulousain, Antoine Dupont est avec nous ce matin et avec lui, nous allons interroger le rapport entre performance individuelle et performance collective. Avec Antoine Dupont, blessé en ce moment, nous allons chercher à savoir ce qu'est vraiment une belle performance.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Antoine Dupont.
Bonjour.
Merci d'être venu nous rejoindre sous le soleil de Platon.
Merci à vous pour l'invitation.
Je vous ai vu vous marrer quand j'ai cité le titre de Zlatan, là, le foot c'est moi.
Oui, parce que c'est vrai que je m'y retrouve pas et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs de rugby qui s'y retrouvent là-dedans. Après, chacun sa personnalité.
Ouais, c'est sûr qu'il a une bonne personnalité.
Il a la sienne.
Mais d'ailleurs, on fera une émission avec lui, on lui en parlera. Alors, en ce moment, vous êtes blessé. Comment vous vivez cette période qui est longue d'interruption? Est-ce que vous arrivez à trouver une forme de sagesse pour la mettre à profit?
Les premières semaines, ça a été dur. C'est vrai que quand la blessure arrive, elle nous tombe dessus. On la voit pas arriver, surtout quand elle est comme moi, elle est accidentelle, soudaine, douloureuse et grave dans le sens sportif. On sait qu'on va être éloigné des terrains pendant 6 à 8 mois.
Ouais, c'est énorme.
Et donc la douleur, elle est physique, elle est mentale, elle est psychique. Et il faut d'abord arriver à avoir cette période d'acceptation, basculer en se projetant vers la reprise, avoir des nouveaux objectifs. Et dans tout cela, au bout d'un moment, on est obligé d'essayer d'y trouver du positif. La seule direction que l'on a, c'est celle qui est vers devant, d'essayer d'avancer, de revenir et d'essayer d'optimiser ce temps qui n'est pas de repos, qui est hors des terrains, mais qui est un travail qui reste quotidien, mais qui est différent et dans lequel il faut arriver à mettre à profit une autre partie de notre période de notre vie.
Et concrètement, ça se traduit comment?
Au début, les premiers mois, c'est assez fastidieux. Le post-opératoire, vu qu'on nous enlève l'appui, on a surtout la jambe qui fond, on perd beaucoup de muscles le premier mois, donc le plus gros travail est de le regagner pour pouvoir avoir une puissance musculaire suffisante pour reprendre la course. Là, j'en suis à 3 mois, je vais reprendre la course très prochainement. Donc je suis dans ce travail-là de regain musculaire, de retrouver mes amplitudes, enlever les inhibitions, Donc c'est que du travail en salle avec les kinés, qui est pas le plus fun, mais qui est primordial.
Alors je précise que c'est les ligaments croisés du genou, pour ceux qui ne savent pas. Alors on va réfléchir ensemble à ce que c'est qu'une performance, et je voudrais qu'on parle un peu de la préparation. Comment on se prépare avant un match, préparation tactique, mentale? Et j'ai une question, je me demande si on se prépare dans l'espoir de dérouler ce qui est prévu, ou alors si on se prépare pas au fond pour être assez prêt à improviser et à faire autrement.
Les meilleures équipes, c'est celles qui s'adaptent le mieux. La théorie de l'évolution ne date pas d'aujourd'hui et je pense qu'elle s'applique bien au sport.
Ouais.
On peut prévoir tout ce qu'on veut, s'entraîner à tous les scénarios. L'imprévu, il arrivera toujours. C'est ce qui fait la beauté et la magie du sport. Et c'est ce qui fait que les équipes qui gagnent, c'est celles qui sont capables de gagner de différentes manières, de s'adapter à l'adversaire, de s'adapter aux conditions, de s'adapter aux conditions sur le terrain, mais aussi en dehors, que ce soit la météo, que ce soit le public, un stade.
Ouais.
Et il faut être capable de s'adapter à tout ça, et c'est ce qui est le plus dur. Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne dur à l'entraînement et qu'on essaye de varier nos entraînements pour avoir le plus de réponses possibles.
Ouais, c'est beau cette idée, au fond, de diversifier les réponses possibles à l'imprévu.
Bah, c'est la solution pour... nous, on le voit avec l'équipe de France depuis qu'on s'est mis à regagner.
Ouais.
C'est parce qu'on arrive à être un peu... Et avec Toulouse, c'est un peu pareil. On arrive à être amphibie, à savoir gagner de manière... pas toujours la plus esthétique.
Ah oui, winning ugly, gagner salement.
Il faut savoir le faire aussi, et d'autres fois avec des matchs flamboyants, mais ça rapporte le même nombre de points à la sortie.
Oui, alors on se demande souvent comment vous prenez des décisions ultra rapides. Là, vous l'avez dit par rapport à l'adaptation au climat, au public, mais on imagine bien, même pour vous comme joueur individuel, qu'il y a des décisions. Est-ce que je vais à gauche, à droite? Est-ce que je feinte? Est-ce que je feinte pas? Est-ce que je fais une passe? Est-ce que je garde la balle? Comment ça s'apprend à prendre des décisions si vite?
C'est de l'entraînement, c'est vivre des situations au quotidien. À chaque fois qu'on s'entraîne, on essaye de nous plonger dans des conditions de match, dans des scénarios qu'on pourrait retrouver, dans des actions de jeu qu'on pourrait retrouver en match, et essayer d'avoir la meilleure réponse en fonction de ce qui se passe en face de nous, qu'on ne peut pas prévoir, auquel il faut s'adapter. Donc c'est beaucoup d'entraînement, et pour pouvoir le jour J avoir la confiance nécessaire pour se faire confiance et prendre la bonne décision au bon moment, ce qui est pas toujours évident.
Alors justement, vous avez lâché le mot de confiance, mot important. C'est le rôle du capitaine de mettre en confiance quand même, de donner confiance. Vous êtes connu pour être quelqu'un de plutôt un peu timide même. Et finalement, vous avez été désigné capitaine et dans le Stade Toulousain et dans l'équipe de France. Comment vous vivez ça? Et comment plus concrètement vous réussissez à donner confiance aux autres?
On m'a pas trop donné le choix. Ça a été un peu, là, surtout au Stade Toulousain, parce que c'est arrivé assez tôt. J'avais 22 ans quand le coach m'a pris pour me dire que je ferais partie des capitaines pour la saison. Et moi, ma réponse, en plus, c'était « t'es sûr, je suis obligé
ouais. »
qu'autre chose, parce que c'était pas un rôle dans lequel je me sentais à l'aise, dans lequel je me retrouvais et qui, plus généralement, qui m'intéressait. Je tendais pas du tout vers ça. Moi, j'avais juste envie d'être sur le terrain et de jouer au rugby avec le ballon sous le bras. Mais... parallèlement, mon rôle de demi-mêlée implique un leadership qui concerne quand même en grande majorité le jeu, mais aussi arriver à... Puisqu'on conduit le jeu, on est obligé d'avoir un leadership sur l'équipe, d'être écouté, de pouvoir amener son équipe avec soi. Donc les numéros 9 restent des capitaines dans l'âme. Donc, et c'était un côté de mon jeu que j'avais pas beaucoup développé et encore une fois qui m'intéressait pas.
Ouais, c'est dingue. Hein.
Alors que c'était pas une bonne chose puisque il fallait que je l'aie. Donc ça a été un peu pas un saut dans le vide, c'est un bien grand mot, mais le coach m'a un peu poussé à avoir ce rôle-là parce qu'il savait que ça me ferait évoluer aussi en tant que joueur. Et puis j'ai pu m'y adapter, m'y accoutumer au fur et à mesure des matchs, des rencontres, des expériences, des titres qu'on a pu gagner pour après avoir ce rôle-là en équipe de France où j'étais plus expérimenté de ce côté-là. Mais bon, j'avais que 25 ans quand même.
Mais ça se refuse pas de toute façon.
Ça peut.
Ah oui?
Ouais, j'ai eu la discussion avec Fabien, justement, avec l'équipe de France, où lui m'avait dit qu'il l'avait refusé dans un premier temps quand il était joueur, pour finalement l'accepter peut-être un peu de force plus tard, ouais. Je sais pas. Mais si, ça peut se refuser, même si c'est quand même difficile, c'est quand même, ça reste quand même un honneur, même s'il y a de la responsabilité d'être capitaine de son pays, c'est quand même un immense honneur. Donc c'est vrai que c'est dur à refuser, mais encore une fois, je l'ai accepté parce que je m'y sentais prêt aussi.
Mais alors justement, avec Fabien Galthié, on avait fait une belle émission qui portait pour titre « Qu'est-ce qu'une belle équipe ?» Et on était arrivé en discutant à l'idée qu'une belle équipe n'est pas une addition. Voilà, c'est pas arithmétique, c'est pas une somme de talents. Et c'est quelque chose qu'on avait appelé tous les deux mystique. C'est mystérieux et c'est plus qu'une addition. Alors je vous pose la question à vous, c'est quoi une belle équipe ?
Bah, je suis d'accord avec cette définition-là. C'est une osmose quand on arrive à trouver ce lien entre les joueurs. C'est ce qui est le plus dur à faire. On peut travailler tout ce qu'on veut techniquement, tactiquement, tout ce qui est la partie purement... data, données chiffrées, ouais. Mais le truc qui se passe en plus, l'effort qu'on va faire en plus au moment où l'équipe en aura besoin, ça c'est très difficilement quantifiable et ce qui est le plus dur à créer. Donc si je devais définir une belle équipe, pour moi c'est une équipe qui vit très bien en dehors, vit très bien sur le terrain, mais dans un objectif de victoire et de performance évidemment, parce que si c'est bien vivre pour rien gagner, ça, je pense que ça n'intéresse pas grand monde.
On va y venir à cette idée de performance. On va écouter Michel Serres, un philosophe qui vient de la ville d'Agen, qui adore le rugby et qui donne à mon avis une très belle définition de ce que c'est qu'une belle équipe.
La balle est un objet qu'on se passe l'un à l'autre, ou de façon adverse comme au tennis, ou au contraire de façon équipière, collective. Et là, je dirais volontiers, et je le dis souvent, que le ballon est un quasi-objet, c'est un objet qui n'est pas un objet, un quasi-objet, qui est un traceur de relations entre l'équipe en question. Et donc, plus il y a de passes, d'une certaine manière, plus l'équipe joue. Mais plus l'équipe joue, plus l'équipe existe. Et plus l'équipe existe, plus nous savons ce que c'est qu'un collectif humain. Et par conséquent, qu'est-ce que le ballon ? C'est le traceur de relations, d'abord, et c'est l'auteur du contrat social.
Un ballon, dit Michel Serres, est un traceur de relations.
C'est joliment dit, mais c'est vrai que même, j'ai envie de dire, à tout niveau, quand on voit des équipes qui peuvent être sur le papier moins fortes, moins costauds, moins physiques, elles ont toujours ce jeu de balles, cette capacité, surtout cette envie de se faire des passes, de déplacer le ballon, de faire briller son copain, et qui arrive à avoir des résultats incroyables. Mais il y a toujours la contradiction aussi. Si on regarde l'équipe d'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui la meilleure depuis des années, c'est peut-être celle qui fait le moins de passes et qui pourtant arrive à être très performante. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui est caractéristique au rugby français aussi, tout ce qui est ce French flair, cet ADN qu'on a.
Vous pouvez définir le French flair ?
Ben c'est un peu le beau rugby qui a catégorisé le rugby français. C'est arrivé tout, peut-être dans les années 70 ou 80. Parce que l'équipe de France était capable de marquer des essais du bout du monde. Notamment, il y en a un qui avait été nommé comme ça. Et cette capacité à être efficient quand même, mais tout en pratiquant un rugby beau, de qualité, où les joueurs étaient capables d'initiative, de prendre des risques, et qui étaient aussi très à l'aise techniquement pour se permettre de tenter des choses sur le terrain et marquer de beaux essais.
Et lorsque Michel Serres nous dit que le ballon est un traceur de relations, je trouve ça très beau, parce que ça veut dire qu'au fond, ce qui fait l'équipe, c'est pas les individus, mais c'est ce qu'il y a entre les individus, c'est ce qu'il y a entre les joueurs, ce que vous avez dit aussi en disant, voilà, ça se passe à côté, l'amitié, la confiance, mais pourtant, il y a des contre-exemples.
Ben, oui, mais enfin, si tu réduis un peu la voilure de ton jeu, il faut être très très sûr et solide sur tes fondamentaux. Ce cas, cette équipe d'Afrique du Sud, qui est sur le côté physique, domine tout le monde. Mais ils ont quand même des joueurs de rugby incroyables au milieu de cette équipe, qui sont peut-être pas à leur plein potentiel de rugby, mais qui physiquement sont incroyables, stratégiquement aussi, et ils arrivent à gagner les matchs. Et ils arrivent aussi à avoir un état d'esprit qui est admirable, l'intensité qu'ils sont capables de mettre, et surtout sur toute la longueur du match.
Ouais, mais c'est quand même, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, en disant qu'ils ne développent pas le potentiel de rugby jusqu'au bout, ça veut peut-être dire qu'ils jouent quand même moins collectif. Au fond, il n'y a pas cet art de l'être ensemble, de la passe faite à l'autre.
Ils l'ont différemment, je pense. Ils ne l'ont pas dans la passe, mais ils l'ont dans l'état d'esprit de s'ils se font franchir, on va voir les 15 mecs qui vont sprinter en arrière pour rattraper le coup du copain d'à côté. Donc ils ont cet état d'esprit collectif-là, mais qui se démontre d'une autre manière.
Ah oui, c'est très intéressant ce que vous dites. En fait, il y a plusieurs façons d'être ensemble quand même. Il n'y a pas que la modalité Michel Serres. On peut être ensemble.
C'est la plus belle, c'est celle qu'on a envie de voir. Mais quand on voit une équipe qui s'arrache en défense, qui lâche rien, qui combat sur toutes les zones d'affrontement, c'est aussi beau à voir. C'est aussi un effort collectif et qui pourtant est sans ballon.
Et est-ce que vous pensez que parfois, il peut y avoir un obstacle à ce bel être ensemble qui vous donne des étoiles dans les yeux? Ça peut être que quelqu'un soit quand même trop accroché à sa performance individuelle. Et est-ce que ça, vous essayez de le combattre en tant que capitaine?
Alors, j'ai pas eu la sensation que j'ai dû d'avoir eu à faire face à ce genre de situation, mais c'est clair que ça peut être un réel obstacle, dans le sens où s'il y a un joueur qui pense à se faire briller lui avant de faire briller l'équipe, il fera les mauvais choix, il jouera les situations de la mauvaise manière, et ça sera un frein à la performance collective. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est cultivé quotidiennement au Stade Toulousain. Dès qu'on arrive le premier jour, on nous inculque que le joueur est moins important que l'héritage du club et que l'entité, et ça, c'est, ça nous est martelé au quotidien, et si y a des comportements qui sortent un peu du cadre, on est vite rappelé à l'ordre.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu en clôt un foie et clôt.
C'était Julien Clerc, tout à fait à propos. Laissons entrer le soleil.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Antoine Dupont et c'est très émouvant de vous écouter parler. Avant qu'on écoute Julien Clerc et qu'il fasse entrer le soleil sous le soleil de Platon, vous disiez, c'était très touchant, que dès qu'on arrive au Stade Toulousain, même quand on est jeune, les choses sont claires. On est là, c'est une équipe, on n'est pas là pour se la ramener en tant qu'égo, on est là pour appartenir. Et on a senti ces belles valeurs, au fond, on a peut-être besoin de ça aujourd'hui, de se souvenir de ces valeurs-là. Alors Antoine Dupont, je rappelle qu'en ce moment, c'est aussi pour ça que vous êtes là, d'ailleurs vous êtes blessé, vous êtes déchiré les ligaments croisés, vous avez pendant plusieurs mois, vous devez ronger votre frein, vous préparer à votre retour, et c'est l'occasion peut-être pour moi de vous demander ce qui vous fait peur, en général, peut-être dans le sport comme dans la vie.
toujours difficile de répondre à ces questions. Dans la vie, je pense que c'est de perdre des êtres qui me sont chers. Je pense que c'est la crainte de tous, même si c'est pas une peur qui est quotidienne. Si je devais en sortir une, ça serait sûrement celle-là. Sur le terrain, paradoxalement, j'ai beaucoup moins de choses qui me font peur.
J'ai l'impression. Mais par exemple,
décevoir,
sur un placard,
décevoir, non, c'est plus décevoir les gens, je pense, qui pourraient me faire peur, je dirais.
Ouais.
Une fois qu'on est qu'on s'est habitué même soi-même et les autres à un certain standard, on n'a pas envie de décevoir, ni de se décevoir soi-même, ni de décevoir les gens autour de soi.
Et j'avais discuté de ça avec Cédric Doumbé, le champion de MMA, il m'avait fait une réponse qui m'avait stupéfait. Il dit parfois j'ai peur de faire mal. Vous voyez, ça vous arrive pas ça?
Alors, vu mon physique et ceux des autres sur le terrain, j'ai pas peur de leur faire mal. Non, c'est plus l'inverse. Ouais. Mais oui, je peux comprendre que pour lui, la question se pose.
Et alors, on vous a préparé une petite surprise, un petit cadeau. C'est Estelle Gap, qui est une collaboratrice de l'émission, qui vous a préparé une petite enquête dans l'origine du rugby.
Antoine Dupont, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la caverne de Platon. Alors, j'avais une petite question pour vous, une petite question d'histoire. Savez-vous comment s'appelle l'ancêtre du rugby, Antoine ?
La Soule.
Oui, bravo. Alors oui, c'est la soule, effectivement. Alors c'est un mot un peu mystérieux, non pas que le jeu lui-même en rende sous. Le mot soule vient de l'ancien français que là, qui désigne une cavité, un objet rond et donc par extension une balle, soit en bois plein, et on imagine ce que ça peut être d'avoir une balle en bois, ou une balle en cuir qui est creuse et remplie de chiffons ou de paille. Alors, eh bien, figurez-vous que le mot soule apparaît pour la première fois au Moyen-Âge dans un chef-d'œuvre de la littérature qui s'appelle Le roman de Renard. C'est un immense poème anonyme de 80 000 vers. Eh bien, voilà ce que dit Le roman de Renard, écrit en 1170. Donc, il parle du rugby avec le mot soule. « Eh, vilains qui sont en la soule, quand ils entendent que ça crie, par ici, tout droit !» Les vilains courent à exploit et tous crient « hors ça, renard !» Vous voyez, on est sur le terrain déjà au Moyen-Âge. Et donc au Moyen-Âge et pendant toute la Renaissance, la soule est un jeu des classes populaires qui se développe en même temps que les tournois de chevalerie qui, eux, sont les jeux de la noblesse. C'est un mélange de football et de rugby aux règles encore floues et qui, dans un même village, oppose souvent les hommes mariés aux célibataires ou bien le clergé aux paysans. Le jeu est ultra violent et fait de nombreuses victimes, à tel point qu'il sera interdit plusieurs fois. Il faudra attendre le 19e siècle pour que ce qu'on appelle encore le rugby-football, avec un trait d'union, gagne ses lettres de noblesse, grâce à de grands écrivains amateurs de rugby, comme par exemple Arthur Conan Doyle. Et oui, l'auteur de Sherlock Holmes, il a écrit deux nouvelles autour d'un terrain de rugby. Alors Antoine, puisque vous êtes originaire du Sud-Ouest, je ne peux pas conclure ce petit billet littéraire sans un détour par ce qui fait peut-être l'essence même du rugby, sa philosophie de l'essai, que n'aurait sans doute pas renié l'un de vos illustres voisins, le philosophe Michel de Montaigne. Mais Antoine, c'est un autre écrivain, un autre Antoine Blondin, que je laisserai le mot de la fin, comme une ultime gasconnade. Voilà ce qu'il écrit à propos du rugby. Écoutez bien, c'est magnifique. Cette féerie magistrale de l'essai, ce panache qui évoque directement Henri IV et débouche sur Cyrano de Bergerac, cet art de la réussite consacrant l'abnégation dans l'amitié, c'est tout le bonheur d'un jeu où l'individu se complète à travers autrui. Dans cette perspective, l'essai est la face la plus lumineuse du rugby, celle où la beauté du geste couronne son efficacité. Selon le canon de la perfection grecque, puisque nous sommes dans la caverne de Platon, l'esthétique rejoint ici la morale. Le plus beau est en même temps le plus bon, le meilleur. Donc, le rugby, c'est le meilleur des hommes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Estelle, c'était beau cette plongée dans le roman de Renard. Il y a cette idée quand même de la beauté du geste. Est-ce que ça vous guide dans une action, j'entends, dans un essai, dans une passe, quand vous accélérez, quand vous récupérez, parce que je précise pour celles et ceux qui connaissent moins le jeu que dans votre... Bon, vous êtes numéro 9, mais vous savez jouer à différents postes. Vous êtes un des joueurs les plus polyvalents de l'histoire du sport. Mais bon, quand même, si on se concentre sur le numéro 9, souvent, il récupère la balle. il me semble, et puis il se met à accélérer et à la passer. Et donc, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes guidé dans l'horizon de l'efficience par la beauté ?
Alors l'idéal, c'est la beauté efficace, je dirais. Ouais. Parce que la beauté unique, honnêtement, pour ma part, elle ne m'intéresse pas, même si elle peut faire plaisir au spectateur.
Ouais, ouais.
Elle est souvent très risquée, et puis quand l'entraîneur derrière, après, il faut lui rendre des comptes aussi. Mais il y a quand même des gestes techniques sur le terrain qui sont très esthétiques et qui sont très utiles. Et quand on arrive à les réaliser, c'est encore plus beau. Mais il faut vraiment garder un point d'orgue, l'efficacité et l'efficience.
Vous ne pensez pas qu'il y a des belles performances malgré le fait qu'on rate ?
Alors si, on va gagner le cœur des gens, mais malheureusement, oui. Le nôtre, on s'en contentera jamais. Je pense que tout compétiteur pourra jamais être satisfait d'un très grand match beau, mais perdu. Si ce n'est un match de championnat, je dirais qu'il y a une importance quelconque, mais si c'est un match de phase finale, une finale d'un championnat, d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Europe, ça contentera personne, à mon avis.
Alors justement, quelle est votre défaite, quoi, qui vous a le plus fait mal dans toute votre carrière ?
Alors, toute proportion gardée, je pense qu'il y en aura deux.
Ouais.
La première, c'est quand j'étais en junior à Auch avec tous mes copains. On avait fait toute une série de phases finales. On était le petit club qui se battait contre les grands et on était parvenu jusqu'à la finale où on perd sur un scénario à la dernière action. On a un essai qui est refusé. Bon, je vous passe les détails. Mais sur le coup, ça a été un déchirement tel que j'avais jamais connu d'émotions si fortes au niveau où j'étais à cette époque-là. Pour moi, c'était ma Coupe du Monde. Donc, de la perdre là. En plus, l'année d'après, je quittais mon club. Donc, je quittais tous mes copains. Et j'ai toujours été très attaché à ce côté collectif du rugby, des copains. J'ai toujours eu besoin d'eux pour me développer, pour m'épanouir. Et cette étape-là, ça a été très dur à vivre.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 16 ans, 17 ans. 17 ans. Et plus récemment, le quart de finale de Coupe du Monde, qui nous aura tous laissé une trace, je pense. Une Coupe du Monde à domicile, c'est une fois dans une vie. On avait l'équipe pour aller jusqu'au bout, le potentiel. Et on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a perdu ce match en quart de finale d'un seul point. Et c'est un match qui nous a fait très mal et qui, je pense, aujourd'hui est encore un souvenir douloureux.
Mais c'est ça le sport aussi.
Mais c'est ça, oui, évidemment. On est content, on dit toujours c'est magnifique le sport, la magie du sport quand on gagne, mais elle est là quand on perd aussi. Et on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, les émotions qu'on va vivre. C'est pour ça que les gens aiment tant venir au stade, regarder les matchs à la télé. Ça peut être traître par moment, comme ça l'a été là. Et ça l'a été beaucoup, plein d'autres fois très heureux pour nous aussi. Et malheureusement, ça ne peut pas toujours le faire.
Mais il faut savoir perdre.
Il faut, mais bon, c'est toujours plus facile de le dire que de l'appliquer en suivant. Et je pense que personne n'aime perdre. Quand on est sur un terrain, qu'on est sportif professionnel, qu'on s'entraîne dur tous les jours, on ne peut pas aimer la défaite.
Alors, il y en a un qui n'aime pas la défaite, c'est Fabien Galthié. J'avoue que je l'ai appelé hier en préparant l'émission et je lui ai dit, j'ai la chance de recevoir Antoine Dupont, est-ce que tu as des idées de questions que je pourrais lui poser ? Et voilà sa réponse sur WhatsApp, c'est quand même particulier. Donc, je vous la lis. Il était une fois le rugby. Si le rugby était, et là il y a six mots, donc je vous dis les six mots, et je vous laisse répondre. Si le rugby était un sentiment ?
Il faut que je réponde aux six mots du coup.
Si vous voulez, ouais. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer votre tour.
Un sentiment... paradoxalement, j'ai envie de dire la sécurité, ça va peut-être choquer les gens. Mais moi je me sens bien quand je suis avec mes copains, quand je sais que je peux compter sur eux, qu'ils peuvent compter sur moi, ça me donne un sentiment de sécurité, de me dire que on crée rien si on est ensemble, si on est soudés.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça. Je vous arrête avant de prendre le mot d'après, parce que ce qui est beau dans la sécurité, c'est qu'il s'agit d'être sécure dans le risque, en fait. D'être sécure dans la prise de risque. C'est pas la sécurité dans la sécurité, j'ai l'impression que c'est la sécurité dans la prise de risque.
Malgré le risque.
Voilà, c'est ça.
Palpable, oui.
Grâce à l'entraînement, grâce à l'être ensemble.
Oui, avec tout ce qu'on a un peu, de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant.
Alors, je poursuis le message de Fabien Galthié pour vous. Hein. Si le rugby était une saveur.
Une saveur... j'ai envie de dire la victoire, c'est pas propre au rugby, c'est au sport en général, je dirais. Même si on passe des moments tous les jours à l'entraînement, on apprécie chaque moment passé ensemble, mais les victoires, il y a rien de plus beau que ces émotions-là quand on les partage ensemble, quand on a cette communion avec les fans, avec les familles, à la fin du match, il n'y a pas plus beau.
Si le rugby était une pensée.
Pensée, J'aimerais bien lui poser des questions aussi. La prochaine fois qu'il viendra, vous me direz, je lui poserai des questions aussi. Le rugby, une pensée, je dirais pas une pensée pour les autres, parce que c'est un sport qui se veut collectif par essence. Je pense que, comme tout sport collectif évidemment, mais nous, je pense que la notion de combat, elle exacerbe la notion de collectif. Donc s'il y avait une pensée, ça serait une pensée pour les autres.
D'ailleurs, Estelle, à la fin de ton texte d'Antoine Blondin, c'est ça ? Tu peux relire la dernière phrase ? Il y avait cette idée que c'est le moment où l'individu s'ouvre sur l'autre. C'est quoi la phrase ?
Cet art de la réussite consacrant l'abnégation dans l'amitié, c'est tout le bonheur d'un jeu où l'individu se complète à travers autrui.
Voilà, c'est ça, c'était beau. L'individu se complète à travers autrui. Ça veut dire aussi, ça nous rappelle toute l'incomplétude. On n'est pas complet, nous les animaux humains, on n'est pas achevé, on est inachevé, on est imparfait. Et on va se compléter, se parachever grâce aux autres. Si le rugby était une femme, alors ça c'est bizarre comme question.
Enfin, je dirais envie de dire une guerrière, une femme qui s'est battue, parce qu'il y a, quand même cet esprit-là de combativité. Athéna, peut-être, sans être très original.
Si le rugby était un homme, il n'y a plus que deux questions. Un homme, une civilisation.
Un homme... C'est dur, hein. J'ai pas envie de dire non plus un guerrier qui a massacré des vies entières, c'est ce qui me vient là, mais... C'est bien qu'on mette la place aux femmes, on va sauter la question.
Ok, très bien. Et dernière question, si c'était une civilisation, c'est marrant comme idée, je trouve.
Civilisation. Alors, j'ai pas fait de master en histoire, donc je vais pas me parler de la Prusse ou l'Empire romain. De façon, je dirais peut-être les Gaulois. Quand on a Astérix et Obélix, c'est toujours le village d'irréductible qui se bat contre les autres, où il y a cette essence collective et de se dire que même si sur le papier on est moins fort, on peut gagner par d'autres moyens.
Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire à Fabien Galthié. On va écouter Daniel Herrero. On va écouter Daniel Herrero qui revient lui aussi un peu comme Estelle Gap et avec le roman de Renard dans l'histoire du rugby et plus précisément de la mêlée. Daniel Herrero.
Voilà, l'acte fondateur, c'est grosso modo dans le collège de rugby, il y a un grand pré qu'on appelle le Big Side, le grand pré, quoi, voilà. Là, il y a des élèves de toutes tranches d'âge qui pratiquent un jeu où on joue avec les pieds. Celui-là, il apparaît relativement simple, il faut pas être bien futé pour y pratiquer, quoi, tu vois. Et puis voilà, on se passe la balle avec les pieds. Et puis il y en a un, il s'appelle William Webb Ellis. Alors lui, sur le terrain, il a 12-13 ans peut-être, tu vois, il court avec la balle, il va pour donner un coup de pied, puis il s'aperçoit qu'avec les pieds, il est pas bon. Il a un pied maladroit, il prend le ballon avec la main, et la légende raconte, il court avec la balle. À ce moment-là, il a quelques adversaires qui sont devant lui, de sa tranche d'âge, des Benjamins, des Minimes, des gosses qui ont 12, 13, 14 ans. Et ils se disent, mais ça se fait pas de courir avec la balle, avec la main, c'est interdit par les règles de notre petit jeu entre nous, là, tu vois, on joue qu'avec les pieds. Football, quoi, tu vois. Et à la sortie, le petit William, il se fait quand même un peu tabasser. Et les collègues viennent aider William. Ils viennent aider William dans la bagarre. Donc on a un tas. C'est pas une bagarre, mais ça se bouscule, ça se tire, ça s'essaye d'attraper la balle, quoi. Il naît le tas fusionnel solidaire. Tu vois?
Le tas fusionnel solidaire.
Ouais, c'est différent d'Antoine Blondin, c'est une autre philosophie. Mais oui, Daniel, de toute façon, il est très fort pour mettre des mots sur notre sport et le présenter d'une manière différente pour en revenir toujours à la même chose. C'est ce qui nous lie entre nous et nous permet de jouer ensemble sur le terrain.
Mais je trouve finalement que Daniel Herrero et Antoine Blondin et Michel Serre disent au fond un peu la même chose, quoi. C'est quand même la mêlée, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas de démêler et de voir des individus séparés qui seraient comme des monades, mais plutôt qu'on soit ensemble ce très joli tas.
If this world were mine.
Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, 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 fa.
Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah.
This world, concrete flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure.
This world,
if it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see
if this world were mad.
Time I turn it off, just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off, just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure.
C'était Kendrick Lamar et SZA, Luther.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Antoine Dupont, sous le soleil de Platon, et nous savons la chance que nous avons, parce que c'est assez rare que vous parliez comme ça. Et ben, on va en profiter. Je voudrais aller un peu plus loin dans cette réflexion sur le rugby, à travers la métaphore de la passe arrière. Parce que, pour l'instant, vous avez beaucoup parlé de la passe vers les autres. La solidarité, l'amitié, oui, c'était très, très touchant. Mais c'est le seul sport, je crois, hein, où la passe avant est interdite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pouvoir aller de l'avant qu'en se retournant vers l'arrière ?
Nous, ça nous semble naturel, parce qu'on a toujours connu ça, on a toujours pratiqué ce sport-là, mais c'est vrai que quand on l'explique aux gens qui ne connaissent pas du tout,
ouais.
Ils trouvent aucune logique dans le fait de devoir avancer en se faisant la passe en arrière. Je pense que c'est une règle qui fait vraiment la spécificité de notre sport,
ouais.
Mais qui est dure à entendre, je viens le croire.
Alors j'avoue que, peut-être je suis trop philosophe, c'est bon, ma manie personnelle, mais moi j'y vois une métaphore de la vraie vie. C'est-à-dire que pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on vient. Pour aller de l'avant, il faut savoir ce dont on hérite. D'ailleurs, vous parliez, vous aussi, de tradition, quand vous évoquiez votre club jeune qui parle tout de suite de tradition pour vous éviter d'avoir des shoots d'ego. Est-ce que, finalement, ce qui nous est dit, schématisé, quoi, symbolisé par la passe arrière, c'est pas qu'au fond, on ne peut aller de l'avant qu'en emmenant tout son passé avec soi ?
Alors, je suis d'accord avec cette philosophie. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui... qu'il l'ait en tête, mais c'est sûr que quand on arrive, je pense, quel que soit le milieu, quand on arrive à un certain niveau de performance, il faut pouvoir être bien ancré pour pouvoir prendre de la hauteur. Et à un moment donné, si on n'a pas des racines et une base solide, on s'effondre. Donc c'est aussi présent dans le rugby que dans d'autres milieux, je pense.
Mais vous parliez vous-même d'héritage tout à l'heure, c'est votre mot.
Bien sûr, parce que moi je parle de mon club parce que je le connais et je sais que c'est ce qui fait que depuis 30 ans, c'est le club qui a gagné le plus de trophées.
Le Stade Toulousain, donc.
Ouais, le Stade Toulousain, que ce soit sur le niveau français ou européen, parce qu'il y a cette culture-là, cet héritage. Partout dans le club, on voit le palmarès de ceux qui sont passés avant nous, les maillots de toutes les équipes qui ont été championnes jusqu'à nous. Dans notre salle de musculation, on a une fresque, comme une fresque temporelle,
ah oui,
où il y a toutes les dates de chaque trophée, avec à la fin écrit « à vous de jouer » pour montrer qu'il faut que nous aussi on arrive à écrire notre ligne sur ce palmarès et à pouvoir être une simple pierre au final d'un édifice qui est là depuis plus de 100 ans.
Mais d'ailleurs ça veut dire aussi que cette fresque dit « si vous voulez écrire la suite de l'histoire, bah, il faut connaître le début ».
Bah, bien sûr, parce qu'il y a une identité, un savoir-faire qui est propre à cette équipe du Stade Toulousain. Chaque équipe a sa philosophie, a son identité de jeu qu'il ne faut pas renier. Il faut arriver à trouver de la performance dans ce qui fait son ADN, dans ce qui la compose. Nous, on a des choses bien particulières. Il y a un fonctionnement assez disruptif dans ce club depuis des générations. Et qui fait que ce club est encore tout en haut de l'affiche, malgré les années qui passent, les générations qui changent, et surtout les visages et les hommes qui la composent changent aussi.
Et qu'est-ce qui est si différent dans ce club ?
Déjà une volonté de jeu, d'initiative, je dirais sur le terrain, un jeu osé, un jeu collectif, où l'initiative est toujours au centre des débats.
Ouais.
La formation aussi, je pense qu'on est sûrement le club qui sort le plus de joueurs du centre de formation, donc c'est beaucoup de travail sur les jeunes, de leur inculquer cet ADN-là, de leur inculquer des bases techniques solides pour pouvoir être capable de participer à ce jeu-là. Même les membres qui composent la direction du club, le président est un ancien joueur, le manager aussi, le directeur sportif aussi, tous les membres de l'encadrement sont des joueurs, des hommes qui sont passés par le club en tant que joueur, ce qui en est une règle quasi fondamentale aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'entraîneur qui n'a pas été joueur du Stade Toulousain. Et tout ce même le fonctionnement économique, on n'a pas de président mécène, on a les infrastructures qui appartiennent à une association qui est l'Amicale des anciens joueurs, où on dépend de nous-mêmes, nos recettes dépendent de nos partenariats, de notre billetterie et de nos résultats. Donc si un jour le Stade Toulousain ne gagne plus, c'est un club qui sera en difficulté.
Et alors vous évoquiez à propos du Stade Toulousain cette fresque historique, avec le staff qui vous dit à vous d'écrire l'avenir, et il se trouve que Fabien Galthié, pour le coup le sélectionneur de l'équipe de France, lui il a travaillé la fresque du temps.
La flèche du temps.
La flèche du temps, vous pouvez nous raconter ça ?
C'est tout ce qu'a apporté Fabien avec son staff quand ils sont arrivés en 2020. Déjà beaucoup de rigueur, un cadre de jeu, mais aussi un cadre de vie. Savoir où on en est, savoir où on veut aller. Quand ils sont arrivés en disant on veut être dans les trois premières nations mondiales, on veut avoir 80% de victoires.
Ouais.
Les gens riaient puisqu'on devait être à 50%, même pas peut-être. Mais il y croyait, il savait qu'on avait le potentiel pour. Mais c'est vrai que quand on a une vision collective, globale, ça pousse tout le monde à travailler et à pousser dans le même sens.
Mais on avait aussi cette idée quand même de voir l'avenir parce qu'on voit le passé, quoi.
Bien sûr, et puis de savoir pouvoir se projeter, regarder ce qui a été fait, mais surtout ce qui arrive, c'est ce qui peut nous donner la motivation au quotidien de faire les efforts nécessaires, je pense.
Voilà, c'est très nietzschéen tout ça, le rugby. Hein, c'est Nietzsche qui disait « tous les grands fondateurs sont des grands héritiers ».
Il y aura sûrement le contre-argument qui montrera que quelqu'un a réussi, mais il aura sûrement hérité de toute façon d'un bagage à un moment donné, d'une éducation qui aura fait qu'il est la personne qu'il est devenu, et surtout il aura forgé une mentalité, une envie féroce de faire quelque chose de sa vie.
Et alors justement, sur votre passé à vous, vos parents, votre frère aîné, qui a fait du rugby, qui a commencé, je crois, en même temps que vous, mais qui était plus âgé, votre milieu social, est-ce que tout ça, c'est très présent, justement, quand vous jouez, et que, pour reprendre la métaphore, donc, voilà, au rugby, on fait des passes vers les autres, et puis vers le passé, du coup, vers l'arrière. Est-ce que ça vous porte, ce passé ?
Je pense que j'ai du mal à le conscientiser, mais bien sûr que oui, mon éducation, le milieu où j'ai grandi, fait l'homme que je suis aujourd'hui, et qui dit l'homme, dit le joueur aussi, où j'ai eu la chance de connaître jeune des succès, que ce soit individuel ou collectif, et ça m'a pas empêché, ça m'a pas fait changer ma mentalité, changer ma personnalité. Au contraire, ça a fait qu'endurcir mon désir de victoire, et d'être de cultiver cette exigence que personnelle déjà que j'ai au quotidien, mais qui est aussi collective, parce que si moi je m'entraîne aussi dur, c'est pas pour m'amuser, je veux dire, c'est pas que pour m'amuser, et malgré toutes les sollicitations, toute la médiatisation que j'ai pu connaître, d'avoir cet ancrage là, je pense que ça m'a et ça m'aide beaucoup.
Et puis vous le mettez aussi au service des autres, pas simplement sur le terrain. Quand vous avez fait la couverture de Têtu pour lutter contre l'homophobie dans le rugby, vous avez chanté avec les Enfoirés, donc on voit bien que vous mettez aussi votre individualité au service d'autre chose, ce qui est au fond le geste même du rugby. Alors je ferai pas l'impair de vous faire parler de votre humilité, parce que si je vous en faisais parler, vous ne seriez plus humble. Vous savez, c'est comme ces gens qui disent, bon, moi j'aime pas trop me mettre en avant, mais bon, quand même, il y a un point sur lequel vraiment je me pose là, c'est l'humilité. Donc je vous ferai pas en parler, mais indirectement, on a quand même l'impression que c'est pas votre truc, quoi, l'ego, au fond. Et ça, est-ce que vous arrivez un peu juste à comprendre, au fond, d'où ça vient? Parce que on voit bien quand même qu'il y a des natures, et c'est très tentant à un moment d'exulter en tant qu'individu, quoi. Est-ce que vous arrivez un peu à analyser pourquoi c'est pas votre...
J'ai quand même de l'ego, je pense, parce qu'il en faut quand on est, encore une fois, un compétiteur, un sportif de haut niveau, il faut avoir de l'ego. Mais me mettre en avant dans un groupe, ça a jamais été quelque chose que j'affectionnais. J'ai jamais aimé parler devant tout le monde. J'ai jamais aimé être celui qui est devant et qui dit « suivez-moi ». Mais d'un autre côté, quand ça allait pas comme j'avais envie, ça m'agaçait aussi. Donc j'avais ce tempérament râleur qui est un peu chef au final dans l'âme, mais de second rang, qui restait derrière et qui aimait bien commander à distance. Donc ça allait aussi avec ma personnalité.
J'aime bien influencer, en fait.
Ouais, pousser les autres à faire comme j'avais envie, peut-être.
Et... manipuler, mais pour la noble, dans le bon sens.
Ouais, on dira ça comme ça.
Finalement, quand je vous écoute, il y a un mot qui nous règle le problème. C'est Sartre, il parle d'ego transcendantal. Ça veut dire qu'au fond, notre ego, il est dans la nature des relations qu'on tisse avec les autres. Il n'est pas en nous, il est hors de nous, dans la nature des relations qu'on tisse autour de nous. C'est peut-être ça, hein.
Après, c'est toujours dur d'expliquer comment on fonctionne, puisque nous-mêmes, on le sait pas forcément, et j'ai jamais fait d'analyse, de rétrospective de ma personnalité. Mais oui, bien sûr qu'on se construit aussi dans le milieu dans lequel on est. Qui plus est, quand on est dans un sport collectif, on vit en groupe et en communauté toute la journée, et c'est notre vie de tous les jours d'être avec un groupe de 50 mecs à courir sur un terrain, ce qui n'est pas des plus naturels. Nous, on évolue là-dedans, donc forcément, on se construit là-dedans aussi.
Ouais, d'ailleurs, je crois qu'une des petites ruptures qu'avait proposé Fabien Galthié pour que l'équipe de France existe davantage, c'était que vous soyez un peu moins dans vos clubs et aussi un peu plus en équipe de France avec les autres, c'est ça?
Il voulait qu'on soit surtout beaucoup, on faisait des rassemblements à 42, alors qu'à l'époque on était une trentaine.
Ouais.
Donc ça faisait beaucoup plus de monde, mais déjà ça nous permettait de nous entraîner mieux, et ça faisait aussi goûter à l'équipe de France des joueurs qui auraient peut-être jamais mis un pied s'il y avait eu que 30 mecs. Donc c'est pour leur dire aussi, t'es pas loin, continue de bosser, et ça payera un jour, et ça a apporté de l'émulation dans le groupe, et je pense que ça a donné encore plus de valeur au maillot, ou dans le sens où les joueurs avaient encore plus envie d'y être.
Et merci beaucoup Antoine Dupont, on gardera cette belle idée en conclusion, donner de la valeur au maillot, et pour vous remercier de nous avoir accompagné ce matin sous le soleil de Platon, qui fut aussi celui de Michel Serres et de Daniel Herrero, je voudrais essayer de dégager la philosophie de la vie que j'ai entendue dans votre bouche. Alors d'abord, vous me faites penser, avec cette idée comme ça, de prendre votre passé, votre héritage, votre tradition, et de l'emmener vers l'avant, à ce que dit Bergson, une très jolie idée, il dit une personnalité, c'est une manière d'aller de l'avant en emportant avec soi toute son histoire, tout son passé, j'ai entendu ça chez vous, mais je dirais plus simplement, franchement c'est une philosophie de l'amitié, tout simplement. L'amitié, c'est d'après Aristote ce qui nous rend meilleurs, et d'après Agamben, ce qui rend la vie plus douce. On a l'impression que c'est surtout ça qui vous drive, qui vous tient, et ça rappelle aussi ce que disait Herrero, cette jolie expression, la mêlée, ce tas fusionnel et solidaire. Et ben c'est tout ça que vous avez fait vivre ce matin pour nous. Merci beaucoup Antoine Dupont.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, avec à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée toujours aussi bien par Antoine Larcher, avec à la technique Rémi Sistiaga, dont je précise qu'il a été joueur de rugby pendant 15 ans au club d'Andaille. À demain.